Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux, le ministère des Affaires Islamiques, les WAC, de la Prédication et du Livre, au Royaume d'Arabie Saoudite, représenté par les délégués responsables de l'imprimerie et de la publication, centre de diffusion, a le plaisir de vous dédier le contenu de ce volume intitulé « Et Tawfiq » du chef Mohamed Abdelwahed. Dans ce programme, nous allons vous parler du Tawfiq, de sa signification et des citations dans le Coran, ainsi que des punitions infligées à ceux qui nomment au nom d'un autre que Dieu. Nous allons répondre à ces questions et à d'autres, et à encore bien plus, à travers cette cachette. Que veut-on dire par « Al-Tawfiq » ? Allah Ta'ala a dit « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent » et le Coran, sourate 1, verset 56. Et très certainement, nous avons suscité dans chaque communauté un messager pour leur dire d'adorer Dieu et d'écarter le rebelle, sourate 16, verset 36. Et voilà que ton Seigneur a décrété que tu dois n'adorer que lui et faire preuve de bonté envers tes parents. Sourate 17, verset 23. Adorez Dieu et ne lui donnez quelque associé que ce soit. Sourate 4, verset 36. Venez, je vais vous réciter ce que votre Seigneur vous a interdit. Ceci ne lui associe quoi que ce soit. Sourate 6, verset de 51 à 53. Ibn Mas'ud a dit, quiconque se propose de vérifier le testament du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, un testament sur lequel le prophète a opposé son sceau, qui lit ces mots d'Allah. Je cite, « Venez, je vais vous réciter ce que votre Seigneur vous a interdit. Ceci ne lui associe quoi que ce soit, voilà ce qu'il enjoint. »
Mu'adh ibn Jabal
raconta, « Je montais derrière le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il me dit, « Ô Mu'adh, sais-tu ce que les créatures d'Allah lui doivent et ce qu'il leur est dû ?» Je répondis, d'Allah et son prophète savent mieux. Il continua, ce que les créatures d'Allah lui doivent, c'est de ne jamais associer qui que ce soit avec lui. Ce qu'il leur est dû, c'est de ne punir aucune personne qui ne lui associe un autre. J'ai dit, ô prophète d'Allah, est-ce que je peux annoncer la bonne nouvelle aux gens? Il répliqua, non, ne leur dis rien, de peur qu'ils comptent sur la promesse et manquent à leur devoir envers lui. Ce hadith est mentionné dans deux chapitres. Le service à Allah consiste en le tawhid, car à l'opposé du tawhid, c'est-à-dire l'associationnisme ou le polythéisme, se trouve l'aliénation d'Allah. Quels sont les péchés qu'expient les vertus du tawhid? Allah Ta'ala dit, ceux qui ont cru et n'ont point revêtu de privatisation pour leur foi, Ubadah ibn al-Shami raconta que le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit, je cite, quiconque reconnaît qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah, sans associer que Mohammed est son serviteur et apôtre, que Aïcha, Jésus, est le serviteur d'Allah, son apôtre, son empire sur Marie et son esprit, que le paradis et l'enfer existent, Allah lui donnera en retour une place au paradis. Ce hadith a été rapporté dans les deux charires, qui ont aussi enregistré le récit de Ibn, selon lequel le prophète a dit, Allah ne permettra à quiconque qui témoigne, ni à d'autres dieux qu'Allah. Nous recherchons aussi que le visage d'Allah être soigné et consigné en enfer. Pourquoi dit-on que ceux qui pratiquent le tawhid entrent au paradis sans calcul? Allah Ta'ala dit, Ibrahim c'était tout un peuple où il dévouait à Dieu en sincérité. Il n'était point de ces faiseurs de Dieu.
jours siège verset 120. Ceux qui s'associent rien à leur Seigneur. Hoshin ibn Abd al-Fahman rapporta un jour, « J'étais chez Saïd ibn Jabir et j'entendis le prophète demander, « Qui a vu l'étoile filante hier ?» Je répondis, « Moi, et expliquai que je n'étais pas à la prière. » Ayant été piqué, il dit, « Qu'as-tu fait alors ?» Je répondis, « J'ai recherché des moyens spirituels de le guérir. » Il dit, « Qu'est-ce qui t'a poussé à faire cela ?» Je dis, un récit que j'entendis d'El-Shabi, il raconta au nom de Buraïda ibn el-Oshaïd, qui dit, « Pas de rogaï ou de recours à la guérison par des moyens spirituels, sauf en cas de guérison de la jalousie ou de la piqûre du scorpion. » Il dit, « Tu as bien fait d'acquérir cette connaissance. » Toutefois, Ibn Abbas rapporta, « Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, « Toutes les nations me furent présentées, et je vis les prophètes se succéder l'un avec une grande foule, l'autre avec deux ou trois personnes, et un tout seul. Apparut ensuite une grande multitude de gens que je prie pour mon peuple, mais on me dit que c'était les gens de Musa. Plus tard, une plus grande multitude apparut, et on me dit que cela était mes gens. Parmi eux se trouvaient 70 000 qui entreraient au paradis sans calcul et sans punition. Le prophète prit ensuite la direction de sa chambre et les gens se demandèrent lesquels d'entre eux seraient en compagnie du prophète ce jour-là. Certains dirent, ils seront peut-être les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'autres supposèrent que ce seraient ceux qui étaient nés en islam et qui n'ont donc jamais associé quoi que ce soit à Allah. Le prophète retourna et les trouva encore à essayer de deviner. Ils lui demandèrent l'identité de ces personnes-là et il dit, ce sont ceux qui ne recherchent pas de remède spirituel pour les maux physiques, qui ne font pas de cautérisation, ne croient pas aux augures, mais dépendent entièrement de leur Seigneur. Qu'est-ce qu'on entend par El-Shirk? Allah, qu'il soit loué et glorifié, dit, non, Dieu ne pardonne pas, on lui donne quelque associé. En deçà, il pardonne à qui il vaut. Sourate 4, verset 48 et 116. El-Khalil, radiallahu anhu, dit, ô Allah, éloigne-moi avec mes enfants de l'adoration des idoles. Dans le hadith, nous lisons, ce que je crains le plus pour vous, c'est le moindre shirk. Quand on lui demande ce que c'était, le prophète répondit, hypocrisie. Dans le Sahih et le Bukhari, nous lisons que Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, rapporta le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, celui qui rencontre Allah le jour du jugement sans lui avoir associé qui que ce soit, ira au paradis. Et celui qui le rencontre avant, si le contraire, sera consigné en enfer. Quels sont les devoirs des musulmans envers Dieu? Allah Ta'ala a dit, dis ô Muhammad, voici mon sentier, j'appelle à Dieu. Sourate 12, verset 108. Ibn Abbas, radiallahu anhu, rapporta, quand le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, envoya Mu'ad à El-Yaman, il lui recommanda, quand tu rencontreras les gens du livre, que ta première action soit de leur demander de témoigner qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah. Selon un autre récit, de leur demander de réaliser l'unicité d'Allah. S'ils t'obéissent, informez qu'Allah leur a imposé le salat 5 fois par jour. S'ils t'obéissent en cela, alors informez qu'Allah leur a imposé le devoir de la charité qui doit être perçu des riches pour être distribué aux pauvres. S'ils t'obéissent en cela, ne touche pas à leur autre bien et occupe-toi de la plainte et l'opprimé. Car il n'y a aucun obstacle dans son accès à Allah, reporté dans les Sahih al-Bukhari et Muslim. pouvez-vous nous donner une explication plus précise sur le tafid?
Allah Ta'ala a dit, ce qu'il invoque cherchant auprès de leur Seigneur un moyen à qui sera le plus rapproche, et quand Ibrahim dit à son père et à son peuple, « Oui, je désavoue que ce que vous adorez n'est pas celui qui m'a créé, car c'est lui en vérité qui va me guider. » Ils, les chrétiens, ont pris leurs docteurs et leurs moines pour des seigneurs en dehors de Dieu. Et il y a des gens qui adoptent en dehors de Dieu des rivaux, les gémons comme d'un amour de Dieu. Dans le charir, on rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Celui qui affirme qu'il n'y a d'autre lieu qu'Allah, qui rejette tous les autres objets d'adoration, sauvegarde son sang, son bien et sa destinée auprès d'Allah. » Les versets du surat al-Baqarah interprètent également le témoignage du tawhid. Allah yati les mécréants, et ce n'est point eux qui sortiront du feu, car ils aiment leur associé autant qu'ils aiment Allah. Surat 2, verset 167. Ainsi, en dépit de leur grand amour pour Allah, ils n'étaient pas considérés comme des musulmans. D'autre part, ceux qui aiment leur associé plus qu'Allah, et ceux qui aiment seulement l'associé, sont condamnables à fortiori. Finalement, la déclaration du prophète, celui qui affirme qu'il n'y a rien d'autre que Dieu, Allah, et qui rejette tous les autres objets d'adoration, sauvegarde son sang, son bien et sa destinée auprès d'Allah, contient aussi une explication les plus claires du témoignage. Il n'y a autre Dieu qu'Allah. À quelle occasion le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit le port de la robe du soufi ou d'une chaîne pour prévenir ou guérir une affliction?
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vit un jour un homme portant une chaîne en cuivre jaune. Quand il lui en demanda la raison, l'homme répondit qu'il en avait besoin pour surmonter la faiblesse de l'âge. Le prophète lui ordonna de l'enlever en disant, elle ne peut s'ajouter à ta faiblesse. C'est la mort d'enlever alors que tu la portes. Tu ne réussiras jamais.
Que nous dit le prophète d'Allah sur la théurgie, les talismans et l'ensorcellement?
La théurgie, les talismans et l'ensorcellement sont des exemples du shirk. Celui qui porte un talisman sera laissé aux soins de ce talisman.
Pourquoi les nouveaux convertis mécois demandèrent-ils au prophète de chercher un arbre saint?
Ils pourraient exprimer leur gratitude en y accrochant leurs armes et leur armure, comme ils le faisaient avant leur conversion à l'islam. Que leur intention était de rapprocher Allah, qui pensait-il aimé de telle action de leur part?
Quelle est la sanction infligée à ceux qui immolent au nom d'un autre que Dieu?
Deux hommes passèrent à côté d'un peuple qui possédait une idole et pour laquelle ils demandaient une offrande de la part de toute personne, cherchant à traverser leur territoire. Quand le premier objecta, disant qu'il n'avait rien à présenter en guise de sacrifice à l'idole, le peuple lui dit qu'il avait à sacrifier quelque chose, même si c'était quelques mouches. Il captura donc quelques mouches, les sacrifia et on le laissa passer. L'homme fut consigné à l'enfer. Quand on demanda au second de sacrifier quelque chose, il retorqua qu'il ne sacrifierait qu'à Allah. Ils le tuèrent et celui-ci alla au paradis.
qu'un sacrifice au nom d'Allah peut se dérouler en un lieu où le sacrifice est pratiqué sous un autre nom?
L'illégitimité d'accomplir un vœu là où il y a eu une idole. L'illégitimité d'accomplir un vœu là où les mécréants ont tenu une célébration, même si la pratique n'existe plus.
Les vœux peuvent-ils être faits à quiconque autre qu'Allah?
S'il est absolument certain que l'accomplissement d'un vœu est un hommage à Allah, ne pas l'accomplir équivaut au shirk. Il n'est pas permis d'accomplir un vœu impliquant la désobéissance à Allah.
Pourquoi chercher refuge auprès de quelqu'un d'autre qu'Allah et shirk?
Si tu n'invoques pas en dehors de Dieu ce qui ne te profite ni te nuit. Sourate 10, verset 106. Faire cela est le plus grand shirk. Faire cela même par le plus pieux et pour les raisons totalement désintéressées est une mauvaise action. On ne doit jamais adresser ses prières pour la vie ou pour le paradis à quelqu'un d'autre qu'Allah. Invoquer quelqu'un, c'est une façon de l'adorer.
Quelle est l'explication du verset suivant? Ceux que vous invoquez en dehors de lui ne sont pas même maîtres de la pellicule d'un noyau de date. Et à quelle occasion a-t-il été révélé?
L'histoire d'Ohud, la bataille qui eut lieu dans la troisième année de l'Hégire après la montagne d'Ohud hors de Médine entre les musulmans et les Mécois, ayant été battus dans l'affrontement à Badr, les Mécois s'étaient préparés à livrer Padayou musulmans et à se venger. La façon dont le prophète avait placé ses archers sur la montagne empêcha la forte cavalerie mécoise de joindre ses soldats qui étaient appris et qui furent battus par une armée musulmane prépondérante. Pendant que la bataille était terminée, les archers descendirent jusqu'à la plaine et permirent ainsi à la cavalerie mécoise de les attaquer de derrière. Les musulmans furent vaincus et le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut blessé. Néanmoins, les Mécois ne continuèrent pas sur leur lancée et se retirèrent. La bataille d'Ohud fut un coup dur au moral des musulmans.
Qui a prononcé ces paroles? Il disait la vérité, il est le haut, le grand. Et comment la parole d'Allah est-elle révélée à l'homme?
Le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, quand Allah veut révéler quelque chose à l'homme, il prononce les paroles qui doivent être révélées, alors les cieux se mettent à trembler fort de peur devant lui, qu'il soit loué et glorifié. Quand les paroles de Dieu parviennent aux habitants du paradis, ils sont pris au dépourvu et ils se prosternent. Le premier à se révéler est l'ange Jibril, qu'Allah chargé de transmettre la révélation. Jibril passait alors à côté des autres anges dans les différents cieux, et à chaque station, on lui demande « Qu'est-ce que notre Seigneur disait ?» Il répond « Il disait la vérité, il est le haut, le grand, et tous répètent cela après lui. » Ensuite, Jibril s'avance vers la place qu'Allah, le haut, lui a destinée.
Qui bénéficiera de l'intercession du prophète?
Abu Huraira radiallahu anhu demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelle est la personne qui aura la chance de bénéficier de ton intercession? Le prophète répéta, celui qui affirme qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah en tout.
À quelle occasion ce verset a-t-il été révélé? Non, tu, Mohamed, ne dis pas qui tu aimes, mais c'est Dieu qui guide qui veut. que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié pour son Abdelmuttalib pardon, mais qu'Allah a rejeté cette prière et a défendu au prophète de la répéter. Le mal que les gens malveillants peuvent apporter à quelqu'un, le mal qu'il y a dans l'agrandissement des leaders et les ancêtres, la fausseté de prétendre le contraire, par exemple l'argument d'Abuja, la preuve que valeur des actions résidait dans leur finalité, si Abu Talib avait témoigné comme le prophète lui avait demandé, il aurait été sauvé. Comment l'exagération de la valeur du juste peut-elle mener à l'incroyance? Plusieurs des ancêtres fussent morts, leurs statues furent érigées sur les tombes, et plus tard on vénéra celles-ci comme des dieux. Omar rapporta que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ne m'agrandissez pas comme les chrétiens ont agrandi le fils de Maryam. Je ne suis qu'une créature. Appelez-moi créature de Dieu, ton serviteur et messager. » Il ajouta que le prophète sallallahu alayhi wa sallam conseilla « N'exagérez pas en matière de religion. » Vos prédécesseurs ont péri en raison de leur exagération.
Que nous dit le prophète concernant ceux qui invoquent Dieu auprès de la tombe du juste?
Dans le Sharir, le Mouchanna apporte que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était affligé d'un malheur, il se couvrait le visage d'un tissu noir, jusqu'à ce qu'il ne pouvait plus respirer, ensuite le mettant de côté, il disait « Qu'ils soient maudits ces juifs et ces chrétiens qui ont pris pour lieu de prière la tombe de leur prophète. »
Quelle est la conscience de ceux qui considèrent les tombes des saints comme objets d'adoration?
Le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Ô Seigneur, faites que ma tombée ne devienne jamais un objet d'adoration. La colère d'Allah est destinée à ceux qui prennent la tombe de leur chien pour des mosquées. »
Le prophète qu'a-t-il dit pour barrer la route au chef?
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ne construisez pas des tombes à proximité de votre maison. Ne faites pas d'une tombe un lieu de célébration. Priez Allah pour moi. Vos prières m'atteindront où que vous soyez. » Abu Daoud enregistra ce hadith avec un isnad ferme, comme firent beaucoup d'autres collectionneurs de hadiths dignes de confiance. On rapporte dans Il Mukhtar que Ali ibn al-Hussein, radiallahu anhu, dit un homme se tenir et prier dans un coin de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Certains membres de l'Oma veulent-ils prendre des idoles?
L'apparition très surprenante d'un prétendant à la prophétie, notamment un Mukhtar, qui prononce aussi le témoignage, affirmé qu'il appartient à cette Oma, qui reconnaît l'authenticité du prophète et du Coran. Le Coran, il faut se rappeler, affirme en effet que Mohammed est le dernier prophète, étant en fait qu'on ait pu croire en un prophète aussi perfide, malgré les contradictions, que le Mustafa était ce prophète très fide qui est apparu à la fin de l'époque des compagnons et fut suivi par de grands nombres de personnes.
Quels sont les 7 péchés graves interdits par l'islam?
Abu Huraira radiallahu anhu rapporta que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Évitez les 7 péchés graves. » Quand on lui demanda quels étaient énumérés, il répondit « Shirk, la sorcellerie, l'homicide, la destruction de la vie humaine, sauf sous le couvert de la loi, la consommation de l'intérêt, voler des orphelins, la désertion sur le champ de bataille, la fausse accusation des femmes protégées. » Jundub raconta le marfou hadith suivant, que rapporta la Tirmidhi. La sanction réservée à la sorcellerie est la peine capitale. Le Sharir le mentionna
mais le déclara Mawquf.
Quelles sont les diverses formes de sorcellerie?
Les deux collectionneurs de Sharif rapportent de Ibn Omar radiallahu anhu que le prophète d'Allah a dit: l'éloquence littéraire peut constituer peut-être si belle qu'elle constitue une forme de sorcellerie. L'astrologie est une forme de sorcellerie. Faire des nœuds et souffler dessus est aussi de la sorcellerie. Faire circuler des fausses rumeurs avec une mauvaise intention est de la sorcellerie. Certaines formes d'éloquence littéraire est aussi de la sorcellerie.
Ceux qui visitent les devins et leurs semblables risquent-ils d'être sanctionnés?
Celui qui va chez un diseur de bonne aventure et croit ce que celui lui dit aura ses prières rejetées pendant les 40 jours suivants. Celui qui va chez un prêtre, un diseur de vérité, et croit ce que celui-ci lui dit a commis le blasphème et a réunié tout ce qu'a révélé Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam.
Qu'est-ce que le Nusra et quelles sont les formes permises de la Nusra?
Ibn al-Qayyim a écrit: le Nusra, c'est l'action d'enlever le charme de la magie. Il y en a deux sortes. La première est celle de détruire le charme en imposant une autre contre-charme et satanique et donc interdite. La seconde qui est celle du Ruqayya, la destruction du charme par l'invocation de véritables pouvoirs spirituels, à travers la récitation des versets du Coran, les préparations pharmaceutiques, aussi bien que les prières convenables, sont permises.
Quelle est la sanction de celui qui se détourne de son but par le Al-Tigara?
Le prophète dit, le témoignage en ces termes: ô Seigneur, il n'y a pas de bien sauf celui que tu nous accordes. Il n'y a pas de mal sauf celui que tu décrètes. Et il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Ahmad rapporta également le hadith de Al-Fadl ibn al-Abbas, radiallahu anhu, notamment que une personne est coupable de Al-Tayyira si le jugement de ce dernier l'a mobilité à continuer ou à s'abstenir.
Dans quel but les étoiles ont-elles été créées?
Allah a créé les étoiles avec trois buts: comme des ornements pour le ciel, des missiles contre les démons et des signes servant le guide aux voyageurs. Celui qui spécule au-delà de ceci est en train de s'écarter du droit chemin et perd le mérite d'être considéré comme un érudit, car il serait en train de transgresser les limites de sa connaissance propre. Le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: il y a trois catégories de gens qui n'entreront jamais au paradis. L'alcoolique, celui qui renie la relation de sang et celui qui croit à la sorcellerie.
Comment le prophète qualifie-t-il la noix pour rechercher la pluie?
Le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: quatre coutumes indésirables persistent encore parmi mon umma depuis les temps pré-islamiques. La fierté que l'on dérive des accomplissements nobles de ses parents, l'attaque des généalogies dites faibles, la recherche de la pluie à travers les étoiles et la lamentation sur les morts.
Quelles sont les trois caractéristiques qui garantissent à une personne la béatitude de lui-même?
Allah Ta'ala a dit: dis-leur, ô Mohammed, si vos pères et vos enfants et vos frères et vos épouses et vos clans et les biens que vous gagnez et le négoce dont vous craignez le déclin et les demeures qui vous affectent vous sont plus chers que Dieu, alors attendez que Dieu fasse venir son commandement, et Dieu ne dit pas par les pères. Le Saint Coran, Sourate 9, verset 24. Ces trois caractéristiques sont qu'Allah et son prophète lui soient plus chers que n'importe qui d'autre, qu'il aime ses semblables, mais seulement à cause d'Allah. Et croyez-moi, il déteste le retour à la non-croyance, maintenant qu'Allah lui a sauvé de cela, tout comme il déteste d'être jeté.
Quelle est la récompense de celui qui recherche la satisfaction d'Allah?
Le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit:
Celui qui recherche la satisfaction d'Allah aux dépens du mécontentement des gens, gagnera le plaisir des deux, car Allah fera de sorte que les hommes seront satisfaits de lui. Mais celui qui cherche à faire plaisir aux hommes aux dépens du mécontentement d'Allah ne devra que s'attirer le mécontentement des deux, car Allah fera de sorte que les hommes seront aussi mécontents de lui.
À quelle occasion ce verset a-t-il été prononcé? Et c'est en Dieu qu'il faut avoir confiance, si vous êtes croyant.
Ces mots furent prononcés par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'on l'informa que les gens ont mobilisé leur armée contre toi, alors méfie-toi d'eux. Mais ceci ne fit que renforcer leur imam, celui des croyants.
Quels sont les péchés graves?
On questionna le prophète à propos des péchés graves. Il répondit, les péchés graves sont premièrement associés propres de soi à Allah, se laisser désespérer de la grâce d'Allah, et enfin se permettre de se sentir en sécurité des desseins d'Allah. Abdelwakir rapporta, Ibn Mus'ab, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les péchés les plus graves sont les suivants, associer quoi que ce soit à Allah, se sentir en sécurité de ses desseins, et se laisser désespérer de sa grâce et de son intérêt. L'explication du verset issu de Sourate Al-A'raf, l'explication du verset de Sourate Al-Hijr, la condamnation sévère de celui qui se sent hors de la portée d'Allah, la condamnation sévère du désespoir.
Que signifie ce verset? Et quiconque croit en Dieu, Dieu guide son cœur. C'est la personne à laquelle allusion est faite dans le verset précédent qui sait, lorsqu'il est affligé d'un malheur, sait qu'il vient d'Allah, l'accepte et se soumet à lui. Mohamed, as-tu besoin d'associer?
Muslim rapporta le hadith marfou suivant d'après Abu Huraira, le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, Allah a révélé, je suis le dernier à avoir besoin d'associer. Celui qui m'associe, qui que ce soit, je l'abandonnerai à son propre sort malheureux. Ahmad rapporta le hadith marfou suivant d'après Abu Saïd, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, voulez-vous que je vous dise ce que je crains pour vous plus qu'un faux Christ? Ils répondirent, oui en effet. Il dit alors, le shirk. Dissimule comment quand quelqu'un améliore sa façon de faire le salat, sachant que les autres le regardent.
Les motivations mondaines sont-elles punies? Allah Ta'ala a dit, quiconque veut la vie présentée avec son décor, nous leur parferons là leur action sans que rien leur en soit diminué. Pour cela, rien dans l'au-delà que le feu, et échouera ce qu'ils auront fait ici, et sera vain ce qu'ils auront œuvre. Le Saint Coran, Sourate 11, versets 15 et 16. Abu Huraira, radiallahu anhu, rapporta ce hadith sahih suivant. Le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, malheur à l'esclave du dinar, malheur à l'esclave du dirhim, malheur à l'esclave du kamisa, malheur à l'esclave du Kamila. La désobéissance au prophète et le fait de légitimer ce qui est interdit, comment est-il vu?
Ibn Abbas a dit, je vous dis que le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit ceci, et vous me dites que Abu Bakr et Omar ont dit quelque chose d'autre. Le ciel va bientôt vous cracher des pierres sur la tête. C'est le shirk, car désobéir au prophète dans certains de ses commandements, c'est pratiquement comme si on reniait son message et on s'attirait le feu.
Qui peut-on qualifier de mu'min?
Allah Ta'ala a dit, et quand on leur dit « ne commettez pas le désordre sur la terre », ils disent « nous ne sommes que des réformateurs » Sourate 2, verset 11. Allah a dit, et sur la terre, après qu'elle a été réformée, ne commettez pas le désordre. Est-ce donc le jugement de l'ignorance qu'ils cherchent? Courant sur les sept verset 56, 85, sourate 5, verset 50. Le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « On ne doit pas qualifier quelqu'un de mu'min tant que ma révélation ne lui soit pas devenue un instinct et une passion. » À quelle occasion ce verset a-t-il été révélé? C'est lui mon Seigneur, pas d'autre Dieu que lui. En lui je place confiance et vers lui le repentir. Allah Ta'ala a dit, il m'écroit le très miséricordieux. Dit, c'est lui mon Seigneur, pas d'autre Dieu que lui. En lui je place confiance et vers lui le repentir. Le Saint Coran, sourate 13, verset 30. Ce verset a été dit lorsque la tribu de Quraysh entendit le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, mentionner Il-Rahman, ils furent une objection, c'est pour cela qu'Allah a fait la révélation du verset. Et il m'écroit le très miséricordieux. Le Coran, sourate 13, verset 30. Comment peut-on reconnaître et renier les faveurs de Dieu à la fois? Ils connaissent les bienfaits du Dieu, puis ils le nient, cependant que la plupart d'entre eux sont mécréants. Mujahid dit, ce verset s'applique à celui qui prétend que ceci est ma propriété. Je l'ai hérité de mes ancêtres. Aoun ibn Abdallah dit que le verset s'applique à celui qui prétend que s'il n'y avait pas eu cette personne-ci ou celle-là, ceci ne serait pas arrivé. Ces paroles que beaucoup ont tendance à prononcer, par exemple, le vent était favorable, le pilote était intelligent, ainsi de suite, pourrait facilement impliquer l'homme dans le shirk. Que signifie le verset « Ne donnez donc pas de rivaux à Dieu alors que vous savez ». Ne mentionnez personne avec Allah si vous voulez éviter le shirk. Explication du verset tiré de Sourate Al-Baqarah concernant l'andad, les rivaux ou associés. Les compagnons comprirent le verset condamnant un plus grand shirk comme comprenant le moins. Jurer par quelqu'un d'autre que Dieu constitue le shirk. Jurer par quelqu'un d'autre que Dieu est d'un crime plus grand que celui de jurer faux. La différence entre « et « puis » quand on jure. Faut-il jurer par autre que Dieu? Il est interdit de jurer par les ancêtres, le devoir d'accepter et d'être satisfait par l'action d'un constataire de jurer par Allah, la condamnation de celui qui n'en est pas satisfait. Est-il permis de dire « Comme c'est merveilleux qu'Allah et toi l'ayez voulu » Un juif rapporta au prophète sallallahu alayhi wa sallam que certains musulmans étaient coupables de shirk car ils disaient comme c'est merveilleux qu'Allah et toi l'ayez voulu, et par le shirk, alors le prophète ordonna à ces gens-là de jurer plutôt par le Seigneur du Kaaba et de dire « Comme c'est merveilleux qu'Allah l'ait voulu et ensuite que toi, tu l'aies voulu. » La connaissance des juifs du shirk est moins grande. La compréhension de l'homme est affectée par sa volonté et sa passion. La déclaration du prophète « Avez-vous fait de moi un associé égal à Allah ?» Combien ces versets de poésie sont donc condamnables? Ô la plus noble des créatures, je n'ai jamais d'autre à qui avoir recours, sauf vous. Que ceci n'est pas le plus grand shirk à cause de la déclaration du prophète, qu'il avait ses raisons pour ne pas l'interdire plus tôt, qu'un jugement ou une vision juste est une sorte d'inspiration, qu'un jugement ou une vision juste peut servir de base à quelques législations. Est-il permis de maudire Allah? Allah Ta'ala a dit, et ils disent, il n'est pour nous qu'une vie, la présente. Nous mourons et nous vivons et seul le temps passe, ça nous tue. Le Saint Coran, verset 24, sourate 45. Dans son hadith, Abu Huraira rapporte que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, Allah Ta'ala a dit, l'homme nous blasphème en maudissant Ildokh, car nous sommes Ildokh. Nous faisons succéder la nuit au jour et le jour à la nuit. Dans une autre version,
ne maudissez pas Eldorch, car Eldorch, c'est nous. L'interdiction de maudire Eldorch, la qualification et la malédiction d'Eldorch, de blasphème, considérez la signification de la déclaration « Nous sommes Eldorch ». Il est possible de commettre un tel blasphème même inconsciemment. Le roi du monde, à qui il doit être appliqué. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, au point de vue d'Allah, le titre le plus offensif que peut assumer quelqu'un, c'est celui de roi des mondes. Il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah. L'interdiction d'appliquer le titre roi des mondes à quelque humain, l'interdiction de tout autre titre ayant une connotation semblable comme l'exemple de Soufiane, l'emphase sur cette et les autres interdictions, même si le violateur n'avait pas l'intention de commettre un blasphème, le rappel que la glorification appartient à Allah seul, subhana ta'ala. Peut-on appliquer les noms d'Allah à des humains? Le respect est pour des noms et attributs d'Allah et le soin de ne pas vouloir leur manquer de respect, même sans le vouloir. Changer son nom par respect pour les noms d'Allah. Que signifie ce verset? Et si tu les interrogeais, ils diraient très certainement, vraiment, nous ne faisons que patauger et jouer. Et quand est-ce qu'il a été révélé? Allah Ta'ala a dit, et si tu les interrogeais, ils diraient très certainement, vraiment, nous ne faisions que patauger et jouer. Le Coran, sourate 9, verset 65. Un homme arriva un jour et déclara, nous n'avons jamais vu quelqu'un avec un plus gros appétit, plus monteur et plus lâché dans la bataille que le prophète d'Allah et ses compagnons. Le plus important, c'est de ne pas plaisanter avec de telles choses équivaut à la non-croyance, que c'est la véritable interprétation du verset, peu importe qui commet le crime. La différence entre les rumeurs mal intentionnées et le conseil sincère pour l'amour d'Allah et de son prophète. La différence entre le pardon qu'Allah aime et la sévérité envers ses ennemis. Est-il permis d'associer quiconque à Dieu? Ibn Hazm a dit, le consensus est d'interdire quelque nom qui implique le service à quelqu'un d'autre qu'Allah, tel que Abd al-Omar, Abd al-Ka'ba, ainsi de suite, sauf Abd al-Muttalib. L'interdiction de tous les noms qui impliquent le service à quelqu'un d'autre que Dieu, l'explication des versets sous-mentionnés. Le shirk commis en nommant le nouveau-né n'est pas tout ce qu'il y a dans cette histoire. Un enfant saint est le cadeau d'Allah à l'homme impie positif. La distinction des ancêtres entre le shirk dans l'obéissance et le shirk dans l'adoration. Que signifie se servir des noms blasphématoires? Ibn Abbas dit, la phrase se servir de noms blasphématoires signifie lui donner des noms impliquant le shirk. Ibn Abbas confirme l'interprétation précédente. Prouver quels sont les noms d'Allah, prouver leur signification sublimée, l'ordre de l'appeler par ses noms, l'ordre d'éviter l'ignorant, les blasphémateurs du mal, l'explication de la nature du blasphème impliqué ici, la condamnation de celui qui en est coupable. Est-il permis de saluer Dieu et que nous en dit le prophète? Dans le Sahih, Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, raconta, un jour, lorsque nous étions en train de prier avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous avons dit, que la paix soit sur Allah de la part de ses serviteurs, que la paix soit sur telle ou telle personne présente. Le prophète réagit en nous donnant l'ordre. Ne dites pas que la paix soit sur Allah, car Allah est la paix. Il faut faire remarquer ici l'explication de la paix. La paix est un salut. Son inconvenance lorsqu'elle est appliquée à Allah, la cause de cette inconvenance. Enseigner aux musulmans quelle forme de salut est convenable et quelle forme ne l'est pas. Est-il permis de prier le Seigneur en invoquant crié, « Ô Seigneur, pardonne-moi si tu veux. »
Dans son hadith, Abu Huraira rapporta que le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, « Ne laissez personne dire, « Ô Seigneur, pardonne-moi si tu veux, » ou « Aie pitié de moi si tu veux, » car personne ne donne des ordres à Allah. Laissez ainsi l'homme présenter une requête décisive. Musulman reporte le hadith. Laissez l'homme présenter sa requête à Allah avec fermeté et clarté. Pour Allah, il n'y a pas de requête qui est de trop ou qui le dépasse. Il faut remarquer ici l'interdiction de conditionner dans la prière, la cause de cette interdiction, la signification de requête décisive, prendre et rendre la supplique claire, précise et sublime. La justification du dernier point.
Est-il permis d'appeler quelqu'un mon serviteur ou mon esclave?
Abu Huraira rapporte de son hadith que le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Ne laissez personne dire à un serviteur « Apporte de la nourriture à ton maître » ou « Fais de la lumière à ton maître, mon serviteur, mon esclave ». Laissez le serviteur dire « mon maître » ou « mon patron » et laissez le maître désigner le serviteur ou l'esclave, mon jeune homme, ma jeune dame, mon garçon ou ma fille. Il faut remarquer ici l'interdiction de dire au serviteur ou mon esclave, l'interdiction de dire au maître mon seigneur, apprendre au maître de dire « mon jeune homme, ma jeune dame, mon garçon ». Apprendre au serviteur de dire « mon maître, mon patron ». L'emphase sur le tawhid, même en diction, le but ultime de l'ordre.
Sommes-nous obligés de donner à ceux qui demandent au nom d'Allah?
Abu Daoud et Al-Ansari rapportèrent avec un sinad valable que Ibn Omar radiallahu anhu raconta que le prophète a dit « À celui qui vous demande quelque chose au nom d'Allah, on doit lui la donner. Celui qui vous fait appel au nom d'Allah doit être répondu. De plus, celui qui vous fait une faveur doit être récompensé. Si vous n'avez pas des moyens pour le faire, priez pour lui jusqu'à ce que vous sentiez qu'il a été suffisamment récompensé. » Il faut remarquer ici l'obligation de protéger celui qui demande la protection au nom d'Allah, l'obligation de donner à celui qui demande au nom d'Allah, répondre à celui qui fait appel, récompenser la bonne action. La prière équivaut à une récompense pour ceux qui sont dans l'impossibilité de donner autre chose. L'explication de la déclaration jusqu'à ce que vous sentiez que vous l'avez suffisamment récompensé.
Est-on prié le paradis pour l'amour de Dieu?
Abu Daoud rapporta de Jabir que le prophète d'Allah a dit « Seul le paradis peut être prié pour l'amour d'Allah ». Il faut remarquer ici l'interdiction de demander quoi que ce soit pour l'amour d'Allah, sauf la chose la plus grande et la plus importante, que l'amour d'Allah est un attribut divin.
Conditionnel, est-il permis dans les paroles des musulmans?
Allah subhanahu wa ta'ala a dit, « Si nous avions en quelque part à la faire, disent-ils, nous n'aurions pas été tués ici. » Tranquillement assis eux-mêmes, ils dirent de leurs frères, « S'ils nous avaient obéis, ils n'auraient pas été tués. » Le Saint-Coran, Sourate 3, verset 154, Sourate 3, verset 168. Dans le Sahih, Abu Huraira raconta que le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, « Recherchez avec beaucoup de soin ce qui vous fait du bien. Demandez l'aide d'Allah et ne vous écartez pas du droit chemin. S'il vous arrive quelque chose, ne vous lamentez pas. Oh, si j'avais fait ceci ou cela, telle ou telle chose ne serait pas arrivée. Dites plutôt, Allah a voulu qu'il en soit ainsi, et ce qu'il a voulu est arrivé. » Le mot si ouvre la porte à Satan. Il faut remarquer ici l'explication des deux versets tirés de Sourate Ali Imran, l'interdiction formelle de dire si en cas d'adversité. L'explication de l'interdiction en référence à Satan. Le conseil pour une bonne pensée et diction. l'ordre de continuer à rechercher ce qui est bénéfique tout en demandant la protection d'Allah, l'interdiction de s'y opposer, ce qui constitue de l'impuissance.
Est-il permis de maudire le juste?
Al-Tirmidhi rapporta avec édition que Ubay ibn Ka'b a dit, le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, ne maudissez jamais le vent si les événements contredisent vos désirs, priez. Ô Seigneur, nous te prions de nous accorder le bénéfice de ce vent, le meilleur de ce qu'il apporte, le meilleur de ce que tu as décrété. Nous avons recours à toi contre le mal de ce vent, du pire de ce qu'il apporte et du pire de ce que tu as décrété. Il faut remarquer ici l'interdiction de maudire le vent, le recours à la prière bénéfique en cas d'adversité, que l'adversité constitue l'objet de l'initiative divine, qu'Allah peut apporter l'adversité aussi bien que ce qu'il l'oppose.
Pourquoi est-il interdit de penser de Dieu l'invraisemblable?
Ceci, penser de Dieu l'invraisemblable, la pensée d'ignorance, et disait, que nous reste-t-il dans cette affaire? Dit, l'affaire tout entière est à Dieu. Le Coran, sourate 3, verset 154. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, les faiseurs de Dieu et les faiseuses de Dieu pensent de Dieu, pensent de mal. En effet, avoir de mauvais soupçons, c'est renier la sagesse d'Allah, son qadr, providence, que la cause de son prophète va réussir, qu'Allah donnera la victoire à son prophète sur toutes les religions. De tels mauvais soupçons étaient en fait entretenus par les hypocrites et les polythéistes, comme l'indique le sourate Al-Fath. C'est un mal parce que c'est peu convenable pour Allah, pour sa sagesse, pour sa louange et sa vraie promesse. Ceci est tout à fait comme il le faut. Pensez qu'Allah retournait sans cesse le faux et le mal contre le vrai et le bien, dissipant ainsi ce dernier. Nier que les événements passent par son qadar et son décret, renier la sagesse d'Allah pour laquelle on aurait dû le louer, et prétendre que les événements sont le travail d'une volonté aveuglée ou de la chance. C'est cela le mauvais soupçon des non-croyants. Malheur à eux, dans le feu. La plupart de gens tombent en effet dans cette erreur concernant les événements qui leur arrivent et à d'autres. Seuls ceux qui connaissent bien Allah, ses noms et attributs, sa sagesse, sont immunisés. Que le lecteur intelligent et rusé qui s'est laissé gagner par le soupçon profite de cette prudence, qu'il se repentisse à Allah et recherche son pardon. Cherchez n'importe qui vous voulez. Vous le verrez certainement obsède contre le qadr, le blâmant convaincu qu'il aurait pu être autre chose que ce qu'il a été. Mais regardez en vous-même, frère lecteur, êtes-vous complètement libéré? Si vous l'êtes, vous avez bien fait, mais si vous ne l'êtes pas, vous n'obtiendrez pas le salut. Il faut remarquer ici l'explication du verset tiré de Surat Ali Imran, l'application de Surat Al-Fatr. Le doute peut se montrer sous diverses formes. Seul celui qui a connu Allah, ses noms et ses attributs peut être libéré de tout soupçon concernant Allah.
Les dénégateurs du Qadar, comment sont-ils vus par l'islam?
Muslim raconta que Ibn Omar a dit, par celui qui tient dans sa main l'âme de Ibn Omar, si quelqu'un possédait une montagne d'or aussi grande, Kofod, il a dépensé complètement dans la cause d'Allah, Allah ne l'accepterait que s'il croit en Qadar. Puis il récita les paroles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, bien en évidence. L'imam, c'est de croire qu'Allah en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, en le jour du jugement et en le Qadar d'Allah pour le bien ou le mal. Il faut remarquer ici l'explication du devoir de croire en Qadar. Explication de la signification de la croyance en Al-Qadr, la condamnation du travail du non-croyant en Qadr, que personne ne peut goûter à lui-même jusqu'à ce qu'il croit en Qadr. La première chose, créer, que les hommes de science répondent à l'enquêteur de façon convaincante en citant le jugement au prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, seulement.
Quelle est la punition des imitateurs?
Muslim et Al-Bukhari rapportent de Abu Huraira, radiallahu anhu, le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, Allah Ta'ala a dit, personne n'est plus injuste que celui qui prétend créer comme moi, pourrait-il créer un atome, une seule semence, un seul grain d'orge? Le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, la punition la plus grande sera assignée le jour du jugement à ceux qui rivalisent avec la création d'Allah. Ils rapportèrent de Ibn Abbas, j'ai entendu le prophète d'Allah dire, chaque peintre se dirige vers le feu. Chacun de ses tableaux sera reproduit et lui sera remis en enfer comme une torture. Finalement, tous deux ont rapporté le hadith mahfouz. Celui qui est une image ou un portrait sera demandé de lui apporter la vie, chose qu'il ne pourra jamais faire. On doit remarquer ici la condamnation sévère des faiseurs d'images, la clarification de la raison pour cela, la violation de Ardab en relation avec Allah, comme le montre sa déclaration « Personne n'est plus injuste que celui qui prétend créer, comme moi ». Le contraste entre le pouvoir divin et l'incapacité humaine, suivant la déclaration « Pourrait-il créer un seul atome, un seul grain d'orge ?» que leur punition sera le plus sévère.
Faut-il jurer fréquemment ?
Allah Ta'ala a dit, mais tenez vos serments, le Saint-Coran, sourate 5, verset 89. Muslim et Al-Bukhari rapportèrent de Abu Huraira, radiallahu anhu, qu'il a dit, j'ai entendu le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire, j'ai entendu un serment et une imposition à faire, mais c'est une abomination s'il est utilisé comme une source de profit. Le prophète d'Allah a dit, il n'y a que trois catégories de personnes qui ne seront pas adressées par Allah, ni seront-elles bénies par Allah. Une punition sévère leur est réservée. Ces trois catégories de gens sont les adultères mûris, les protèges fiers et ceux qui ont fait d'Allah leur commerce en achetant et en revendant avec un serment, l'invoquant à chaque moment. Il faut remarquer ici le conseil que les serments doivent être gardés, que les serments sont faits pour être dépensés, qu'ils sont une abomination s'ils sont utilisés comme source de profit. La condamnation sévère du vin recourt au serment. La culpabilité peut être grondée pendant que les criminels sont peu nombreux. La condamnation de ceux qui jurent sans être priés. L'éloge du prophète à l'égard des trois ou quatre premières générations. La condamnation de ceux qui témoignent sans être priés. Le châtiment des ancêtres à l'égard des jeunes pour leur témoignage vain et leur serment.
Quel est le verset relatif aux promesses d'Allah et de son prophète?
Allah Ta'ala a dit, et remplissez le pacte de Dieu quand vous pactissez et ne brisez pas les serments après les avoir renforcés et désignez Dieu comme garant pour vous. Le Saint-Coran, sourate 16, verset 91. Muslim rapporta de Buraïda, chaque fois qu'il chargeait un officier de l'armée ou l'investissait de la commande d'une force ou d'une expédition, le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui conseillait à lui et à ses subordonnés de craindre Allah. Il disait, allez en avant au nom d'Allah, faites la conquête pour sa cause. Faites la guerre à ceux qui ne croient pas en Allah, ni jamais avec haine ou avec déception. Ne mutilez pas le mort. Ne tuez jamais un enfant. À chaque fois que vous rencontrez vos ennemis polythéistes, rappelez-les les trois vertus, quelle que soit celle qui leur convient d'y adhérer. Acceptez-la, d'eux, et éloignez-vous d'eux. Ensuite, appelez-les à l'islam. S'ils acceptent d'y adhérer, acceptez-les et demandez-leur de quitter leur région pour se rendre à celle des moujahidines. Assurez-les que s'ils se conforment, les droits et les privilèges des moujahidines seront également les leurs. S'ils refusent, informez-les qu'ils seront traités comme les nomades des camps musulmans, qu'ils sont sujets à la loi d'Allah, qu'ils ne partageraient le butin ou les profits de la guerre que s'ils luttent du côté des musulmans. S'ils rejettent cela, alors demandez-leur de payer le jizya, s'ils sont d'accord, acceptez-les et ne leur opposez pas. Mais s'ils résistent toujours, alors demandez l'aide d'Allah et faites-leur la guerre. Il faut remarquer ici la différence entre la promesse ou le pacte d'Allah, de son prophète et des musulmans. Le conseil de suivre l'alternative la moins dangereuse. L'ordre, allez en avant au nom d'Allah pour la cause d'Allah. L'ordre, faites la guerre à ceux qui renient Allah. L'ordre, demandez l'aide d'Allah et faites-leur la guerre. La différence entre le jugement d'Allah et celui de l'ulama. Que le jugement du compagnon peut ou pas ne s'accorder avec le jugement d'Allah.
Que nous dit Muslim à propos des serments liés à Allah?
Muslim rapporta de Jundub ibn Abdullah radiallahu anhu que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: un homme dit par Allah, Allah ne pardonnera pas cette personne. À cela, Allah, qu'il soit loué et glorifié, dit: qui est celui qui prétend que je ne pardonnerai pas à cette personne-là? En effet, je lui ai déjà pardonné que refuter l'insertion. D'après la version d'Abu Huraira, le hadith se poursuit ainsi. Celui qui a juré est un pieux. Toutefois, il a fait une déclaration qui a détruit sa vie dans ce monde et dans l'au-delà. Il faut remarquer ici l'avertissement contre le fait de faire des serments liés à Allah. Le feu de l'enfer est plus près de nous que notre semelle, de même que le paradis. Chaque déclaration est témoignée par Allah. L'homme peut être pardonné pour des raisons des plus éloignées que des espérances.
Peut-on prier Dieu pour intercéder contre ses créatures?
Ne savez-vous point qui est Allah? Allah est plus grand que d'être prié d'intercéder contre quelqu'un. Il faut remarquer la condamnation de la requête d'intercéder contre quelqu'un. La colère du prophète était clairement reflétée sur le visage de ses compagnons. Sa tolérance de la requête qui lui était adressée pour qu'il intercède auprès d'Allah. Les musulmans ont demandé à Mohammed de prier pour avoir de la paix.
Comment le prophète sauvegarde le tawhid et quel est son effort à faire obstacle au shirk?
Al-Masai rapporta avec un bon isnad que Anas radiallahu anhu a dit: lorsque certaines personnes s'adressent au prophète avec les mots « Ô prophète d'Allah, ô le meilleur de nous tous, ô fils du meilleur, notre maître » ou « Ô fils de notre maître », il les interrompt pas et dit « Ô mes frères, dites ce que vous êtes venus me dire et ne vous laissez pas influencer par Satan. Je ne suis que Mohammed, le serviteur d'Allah et son prophète. » Il faut remarquer ici que prévenir les gens contre l'exagération est important. Comment celui qu'on adresse comme notre maître aurait dû répondre? L'ordre du prophète, ne vous laissez pas influencer par Satan, malgré le fait qu'ils n'ont rien dit que la vérité. Sa déclaration, je n'approuve pas que vous m'éleviez au-dessus de mon rang.
Quelle est la signification du verset? Ils n'ont pas mesuré Dieu à sa vraie mesure. Au jour de la résurrection, cependant, il fera de la terre entière une poignée et les cieux pliés dans sa main droite.
Ibn Mas'ud raconta, un prêtre s'approcha un jour du prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et dit: ô Mohammed, nous avons vu dans les livres saints qu'Allah placera les cieux sur un doigt, les terres sur un doigt, les arbres sur un doigt, l'eau sur un doigt, le sol sur un doigt et toute l'humanité sur un doigt, et dira: je suis le roi. Qu'est-ce que cela veut dire? Le prophète éclata de rire, affirmant que ce que le prêtre avait dit concernant Allah était vrai, et récita le verset. Et ils n'ont pas mesuré Dieu à sa vraie mesure, au jour de la résurrection, cependant il fera de la terre entière une poignée, il les placera tous sur sa main droite, pureté à lui, il est tant plus haut que les associés qu'il donne. Le Saint-Coran, sourate 39, verset 67.
Nous vous remercions d'avoir répondu à ces interrogations et de nous avoir appris plus à travers votre sagesse et de votre science.